Excusez ce retard. C'est dès qu'on change l'heure, vous voyez, on s'habitue. Vite. Alors, quelques petites questions. Pouvons-nous expliquer ce que le principe de détermination nous y a ? Je veux bien, mais prenez, c'est la voie qu'on peut faire le plus facilement. Découvrir au niveau philosophie du vivant ce qu'est l'âme. C'est sûrement pour nous la voie d'accès pour découvrir ce que c'est que la substance. Bon, on est quand même un peu plus habitué à comprendre la complexité de nos opérations vitales et l'unité qui existe dans notre vie. Vous voyez, l'induction, c'est toujours expliquer comment, dans cette diversité, il y a une unité. Pour que, dans la diversité que nous constatons, il y a une unité, il faut qu'il y ait une source commune. Autrement, je n'explique pas cette unité dans cette diversité. C'était à titre d'expérience, je vous dis ça, pour se réveiller après la fin. Le professeur de philosophie de Lausanne, de l'université de Lausanne, qui est mort maintenant, c'est plus le même. C'est celui que j'ai connu au début, quand je suis arrivé à Fribourg, qui était un homme délicieux, avec une épouse aussi, très bien. Mais lui était protestant. Il avait vécu longtemps à Paris, parce qu'il avait fait ses études de philo à Paris. Donc, dans un milieu chrétien, catholique. Elle était barthienne. Karl Barth, qui est un grand luthérien, c'est lui qui dit cette phrase que je trouve intéressante. Karl Barth, c'est quand même quelqu'un que dans le milieu théologique, avec l'œcuménisme, on respecte. J'ai pas connu. C'était juste avant, au début du siècle. Il était à Bâle. Karl Barth disait, Hegel est le plus grand théologien luthérien. Il est, pour les luthériens, l'analogue à Thomas d'Aquin. Personne n'a parlé de la très sainte Trinité comme lui. Mais peut-être que Thomas d'Aquin a été plus loin que lui. C'est très beau, vous voyez, de la part de quelqu'un comme Karl Barth. Il avait la foi, cet homme. Et une foi très très forte. Et pratiquement, on voyait que pour lui, ajouter quelque chose à la parole de Dieu, ça n'allait pas. Mais malgré ça, il a écrit 7 gros livres de théologie. Si je suivais ce qu'il disait sur la foi, on aurait compris que le vrai croyant doit se taire. C'était toute la question de la parole de Dieu et l'analogie, le passage d'une parole humaine à une parole divine. C'est un gros problème. Mais Karl Barth s'était heurté à ça. Et alors, ce bon professeur qui m'invitait chaque fois que je passais à Lausanne, il faisait passer chez moi. Il m'invitait toujours comme ça. J'étais vraiment un ami pour lui. Et c'était mutuel. Dans les repas, il me disait mon père. Et son épouse disait monsieur. Disait monsieur, oui. Alors c'était très amusant parce qu'il s'écoutait, voulez-vous. Il se respectait. Parce que lui était Barthienne, alors très très. Je dis pas anti-catholique, ce serait pas vrai. Mais net. Il ne savait pas très bien ce que c'était que le catholique. Alors de temps en temps, elle m'en sortait très bonne. Elle me disait, oh père, au café, c'était toujours au café. On quittait la table, on allait au café à côté. Alors à ce moment-là, tout ce qu'on avait pu dire pendant le repas était mal digéré. Il revenait au café. Père, vous qui faites de la philosophie, qui êtes intelligent, comment pouvez-vous accepter le mystère de l'Immaculée Conception? Puisqu'au fond, c'est contraire à l'Écriture. Puisque tout le monde est né dans le péché et est sauvé par le Christ. Alors il n'y aurait que Marie qui ne serait pas sauvée par le Christ. Alors je lui ai dit, madame, vous ne savez pas ce que c'est que le mystère d'Immaculée Conception. Je ne sais pas comment vous l'enseignez, mais c'est pas ça du tout. Le mystère d'Immaculée Conception, c'est une grâce chrétienne. Et si vous refusez le mystère d'Immaculée Conception, vous n'allez pas jusqu'au bout du mystère de la rédemption. Je savais qu'en disant ça, je la chatouillais dans sa foi luthérienne, puisqu'ils ont un sens très très aigu de la rédemption. Alors dire qu'elle n'allait pas jusqu'au bout du mystère de la rédemption, oh là là, je touchais des fondements. Alors elle m'a regardé, je dis oui, parce que le mystère de la rédemption est capable de nous sauver comme Marie a été sauvée. Puisque les conséquences du péché originel, mais oui, le mystère de la rédemption du Christ nous a sauvés radicalement. Et le mystère d'Immaculée Conception montre l'efficacité du mystère de la rédemption qui va jusque-là. Alors c'était bouleversant de voir cette chrétienne, d'avoir rectifié ce qu'on lui avait enseigné. Alors elle m'a regardé, elle m'a dit, mais comme c'est beau ça. Elle m'a dit, oui, c'est très beau. Elle y adhérait tout de suite. C'était très beau comme. Alors, ce brave professeur m'a dit, tous mes étudiants et étudiantes sont sous l'influence de Merleau-Ponty, l'influence de la France. Et aucun n'accepte la distinction de l'âme et du corps. Puisque Merleau-Ponty part de la conscience. Et au point de vue de la conscience, il n'arrive pas à distinguer l'âme et le corps. Il ne distingue pas l'âme et le corps. Ils sont tous sous influence. Alors il m'avait dit, je ne peux pas vous inviter à l'université. C'était avant le concile. Je ne peux pas vous inviter à l'université. Vous êtes de Fribourg. Vous êtes papiste. Alors je ne peux pas vous inviter à Lausanne. Mais ce que je peux faire, c'est inviter tout mon séminaire. Tous mes étudiants de philosophie chez moi et on passera une soirée ensemble. Tu sais, bien mieux qu'à l'université. Et en effet, c'était beaucoup mieux parce que sous le coup de minuit, cette chère personne Barthienne était pleine de charité, arrivée à nous apporter le thé. Ça n'aurait jamais eu lieu à l'université, le thé avec les petits gâteaux. Alors, je savais très bien que c'était pour essayer de leur faire comprendre ce qu'était la distinction d'âme et du corps et qu'ils étaient tous en opposition. Sans faire attention, je parle de la distinction d'âme et du corps sans faire attention, un peu exprès. Et je vois devant moi une étudiante qui suivait. Puis tout de suite, moi je voyais très bien ce prix. Alors je l'ai prise, puisqu'elle était juste en face de moi. Je dis, mademoiselle, vous n'acceptez sans doute pas la distinction d'âme et du corps. Mais je vous demande, est-ce que pour vous, autre chose est faire de la philosophie et de dormir? J'espère que quand vous faites de la philosophie, vous ne dormez pas. Et j'espère que quand vous dormez, vous ne faites pas de philosophie. Elle n'a pas osé répondre. J'ai taquiné un peu. Elle n'a pas osé répondre. Parce qu'elle savait qu'elle était coincée. Vous voyez, si je fais mon examen de conscience philosophique, je regarde toutes mes occupations de la journée, mais il y a le fait de dormir, le fait d'être éveillé, le fait de manger, le fait de faire de la philosophie, le fait de prier, toutes ces occupations, c'est moi. Le matin, quand vous vous réveillez, vous ne vous posez pas trop la question, est-ce que c'est bien moi qui étais là hier au soir, qui me suis endormi, est-ce que c'est bien moi? C'est dangereux quand on commence à se poser la question comme ça. Il vaut mieux pas s'imposer. C'est bien nous. On a une variété d'occupations, mais qui est extraordinaire. Et tout ça, c'est nous. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Au plan du science biologique, je vois toute la diversité des organes. Oui, mais expliquer comment il y a conscience. Je sais très bien qu'on essaie de l'expliquer par les neurones et tout ça. On n'explique rien du tout. On constate qu'il y a la conscience, qu'il y a l'inconscient. Et l'inconscient, c'est encore quelque chose d'autre. Dans mon dialogue avec les psychanalystes, ça a duré longtemps, l'inconscient. Savoir ce que j'étais, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et je les interrogeais. Alors je prenais la méthode socratique. Tiens, moi je comprends pas ce que c'est que l'inconscient. Je suis toujours conscient. Alors ils étaient très difficiles, ils n'arrivaient pas à préciser. Ils n'arrivaient pas à préciser. Alors le seul moyen, c'était d'aller se reposer au parc au zoo de Vincennes, à Paris. On allait au zoo, il n'y a rien qui repose plus que de la psychanalyse, d'aller voir les animaux. Alors on a eu une scène extraordinaire là. Ah, une scène que je rappellerai toute ma vie, ça. J'avais mes psychanalystes qui étaient là. On était très, très, très... On avait toujours dit qu'on parlerait tout le temps, franchement, jusqu'au bout. Quitte à se trapper en disant « Vous êtes des imbéciles, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est d'avancer dans la recherche de la vérité. » Alors on a insisté là, il faut regarder les singes. Et on allait toujours aux singes méchants. Parce qu'ils étaient plus sauvages. Parce que des singes habitués aux mœurs du zoo sont plus des singes. Tandis qu'ils étaient méchants. Et on l'a vu bien, parce qu'on est arrivé, il y avait la femelle qui portait son petit, qui venait de naître. C'était visible. Et tout le monde regardait ça. Le mâle allait de droite et de gauche. Attirer l'attention, mais tout le monde regardait le crâne de ce petit singe. Elle portait son petit singe sur elle comme ça. C'était admirable. Ça dure un petit moment, cette agitation du mâle. Puis alors on a vu le type qui est venu apporter la nourriture. Comme c'était des singes méchants, il la portait par en dessous. Il n'entrait pas dedans. Alors tout s'éparpillait. Alors on a assisté à une scène extraordinaire. Il y avait un gros chou. Je le vois encore. Un gros chou. Énorme chou. Alors la femelle s'approche tout doucement. Là-dessus, le mâle bondit et prend le chou. Il a fait ça 5 fois, comme s'il était incapable de choisir et qu'il laissait l'autre choisir les bons morceaux. Et il les prenait. Puis après, quand il en a pris 5, je crois bien que c'était 5, il a fait un geste magnanime. Prends le reste. Alors à ce moment-là, j'étais à côté d'une petite fille qui avait, je crois, 10 ans, même peut-être moins, 7 ans. Sa mère était à côté, son père était à côté. Alors la petite fille regarde la mère. Oh, comme elle est gentille, la maman. Alors le père a dit, dis donc, qu'est-ce qui gagne la croûte? Pour comprendre ce que c'est que l'inconscience, c'était magnifique. C'est le plus bel exemple que j'ai eu. S'identifier. Sur nos diverses activités, on voit l'unité. Et pour voir l'unité, on pose une source commune à toute cette diversité, l'âme. Vous comprenez, hein? Comprenez bien. Les traditions religieuses, celles de l'Inde, pas la Grèce, celles de l'Inde, parlent de la distinction de l'âme et du corps. Et beaucoup de traditions religieuses parlent de l'âme et du corps. Les traditions judéo-chrétiennes parlent de l'âme et du corps. De façon différente que le philosophe, mais il parle de ça. Et donc, le philosophe doit se poser la question, est-ce que l'âme, c'est un mythe religieux? Ou est-ce que c'est une réalité? Donc, il y a une interrogation. Il faut essayer de comprendre, il doit regarder l'homme dans ses diverses occupations et voir que l'âme est source de vie, source d'unité. Qu'est-ce qui fait cette unité? Il faut qu'il y ait un principe. Alors, il y a une autre manière, plus immédiate, ça c'est l'induction, où on pose un principe, une source de toutes ces déterminations. Et puis, il y a le fait de l'intériorité. Je sais que j'ai un visage pour ceux qui me regardent. Comme je regarde à la glace, je regarde ce que je suis à l'extérieur. Et quand je me regarde intérieurement, je suis seul à me connaître comme ça. Il y a une intériorité en moi. D'où vient cette intériorité ? Elle vient d'une source. C'est sûr que la science biologique, ne regardant que ce qui est mesurable, ce qui est expérimentable, ne peut pas parler de l'âme. Ne peut pas. C'est Jean Bernard qui, dans un dialogue qu'on avait avec lui à Paris, raconter cette histoire très belle. Jean Bernard, qui avait été président de la bioéthique, le premier en France, puis qui est quand même un point de vue science biologique, qui est connu, allait se reposer chez ses parents. Et là, l'instituteur, sachant cela, a eu l'audace de lui demander est-ce que vous ne pourriez pas donner un petit cours sur la biologie à mes petits élèves de 10 ans à 14 ans. Alors l'autre a dit, mais très très bien. Il a donné plusieurs petits cours comme ça. Puis il leur avait dit, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, envoyez-moi des petits billets, des petites questions, puis j'essaierai de répondre. Alors il m'a dit, j'ai reçu un petit billet. Oh, très bien écrit. Avec toute l'application. C'était sûrement une petite fille de 10 ans. C'était visible. Merci, monsieur le professeur, de tout ce que vous avez dit. Mais vous ne nous avez pas parlé de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Signé Brigitte. Alors, vous savez comment il a répondu ? Il a écrit un livre. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Dit Brigitte. Demande Brigitte. Je trouve ça merveilleux, ce dialogue de ce grand savant avec cette petite fille de 10 ans. Elle avait été au catéchisme. Monsieur le curé avait parlé de l'âme. Sûrement. Et voilà que ce grand professeur de Paris fait un cours de biologie et ne parle pas de l'âme. Ah, c'est qu'est-ce que c'est que l'âme ? Tout ça, c'est merveilleux comme dialogue. Et c'est merveilleux de voir que Jean-Bernard a pris ça au sérieux. Il s'est mis à écrire un livre en disant « La biologie ne peut pas parler de l'âme, mais les spirituels, les philosophes, les poètes parlent de l'âme. » Et ajoutons les traditions religieuses. Et donc le philosophe doit se poser la question « Est-ce que l'âme c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ?» Et c'est là où se pose l'induction pour essayer de comprendre comment cette diversité de mes opérations implique nécessairement quelque chose de différent. Le corps et l'âme. Pour expliquer la pensée, pour expliquer le choix libre, la liberté, pour expliquer comment je peux éduquer et comment je peux coopérer à un cours qui est donné. On est divers, on a des expériences très différentes et on peut arriver à dialoguer, à parler, à s'aimer. C'est quand même quelque chose qui exprime qu'il y a en nous quelque chose d'autre que le point de vue purement biologique. Tout ce qui est en nous organique joue un rôle très important pour toute une vitalité qui est en moi, ma vie végétative, ma vie passionnelle, c'est très important, et ma vie spirituelle. Donc, je distingue l'âme et le corps. L'âme comme étant la source radicale, fondamentale. Et en métaphysique, je me pose la question, l'âme est source de ma vie ? Est-elle source de mon être ? Et je dis oui, puisque en moi, ma vie, c'est mon être. C'est vrai, la vie prend tout mon être. Et donc, l'âme, elle est source d'être, source de toutes mes déterminations. Elle informe mon corps. Et donc, il y a une unité entre les deux. Mais l'âme est premièrement source de vie. En tant qu'elle est source de mon être, je dirais, elle est substance. Et si je cherche le comment de mon être, je cherche le comment de ma substance. Et le comment de ma substance, c'est mon âme. Parce que quand je me pose la question du « je suis au niveau du comment de mon être. J'ai conscience que je suis. Et j'ai conscience par là de quelque chose qui est radical en moi. Quelque chose qui est radical en moi, c'est mon âme, c'est ma substance. Source d'autonomie dans mon être. Parce que que ce qui est premier dans l'ordre de l'être, la substance, elle subsiste par elle-même, c'est-à-dire qu'elle est à elle-même source de mon être. Et mon âme est source de mon être et de toutes mes opérations, de toute ma vitalité. Elle est source première, elle est bien ma substance. Et c'est là où je découvre mon autonomie radicale. J'ai une autonomie radicale à partir de mon âme spirituelle. Et cette autonomie radicale, je l'ai posée, je la découvre constamment dans ma vie. Je dis, je ne suis pas dépendant dans mon être de mes voisins. Je suis conditionné par eux, ça c'est sûr. Venez, je prends toujours l'exemple du conditionnement corporel. Il est très visible quand on est en avion et qu'on doit passer une nuit en avion. On est à côté de quelqu'un, tandis que les sièges ne sont pas toujours très très grands. Il y a des personnes qui peuvent être un peu plus vastes que le siège. Et quand on est à côté, vous comprenez, oui, on est à l'ombre. Alors à ce moment-là, on comprend très bien le conditionnement. Puis on regarde s'il n'y a pas d'autre endroit où le conditionnement est moins important. Et on dit charitablement au monsieur qui est à côté, je vois qu'il y a une place là-bas, monsieur, je vois que on bredouille à ce moment-là pour ne pas lui faire de peine. Conditionnement du corps. C'est grand le conditionnement du corps. Quand on est fatigué, on se laisse aller à son conditionnement. On se repose. Mais je ne peux rien faire d'autre, je suis trop fatigué. Ça veut dire, laissez-moi me déterminer par mon conditionnement corporel. Je suis fatigué. À partir de minuit, mon intelligence s'endort. Hein? Alors qu'elle ne devrait jamais s'endormir. Mais je suis fatigué. Oui, on voit la complexité qui est en nous. Et cependant, c'est toujours nous. Il faut essayer de comprendre ce que c'est que l'âme. Quand nous pensons, quand nous réfléchissons, quand nous avons conscience, quand nous décidons, quand nous posons des actes libres, je sais très bien que certains psychanalystes diront qu'il n'y a jamais d'acte libre, c'est le conditionnement qui détermine tout. Je veux bien, pour des quantités de personnes, que ce soit comme ça. Mais si on a une vie intérieure plus grande, une vie intellectuelle plus profonde, on sait très bien discerner notre conditionnement. On est fatigué. On est très fatigué. Donc on sait qu'on est de moins bonne humeur. On est moins accueillant que quand on est bien reposé. Alors à ce moment-là, tout le monde est intelligent parce qu'on est intelligent et qu'on est bien reposé, bien accueillant. On peut faire facilement le discernement et voir que je ne peux pas tout ramener à mon conditionnement. Mais je vois tout de suite. Et c'est peut-être les deux extrêmes de ma personne humaine. On voit tout de suite. Qu'il y a en moi ces deux aspects. Cette autonomie fondamentale. Elle est fondamentale, qui relève de mon âme spirituelle, mon âme humaine, disons, c'est mieux, mon âme, qui est source. Et puis il y a le conditionnement, un conditionnement substantiel, oui, on peut dire substantiel, qui vient de mon corps avec toute la diversité organique qui est en moi, qui autonomie, elle est limitée par mon corps. Donc il y a une certaine autonomie en moi. Mais cette autonomie est limitée. Elle est fondamentale, mais elle est limitée. Elle est limitée par mon conditionnement. Mon conditionnement, il s'impose. Voulez-vous, il y a des gens très grands, il en faut de la place. Il y a des gens tout petits, il en faut moins de place. Ils circulent plus facilement. Et c'est comme dans les foules et à Paris, les bicyclettes passaient à travers tout. Et puis les grosses voitures, qui d'habitude vont bien, étaient coincées à tous les coins de rue, et même plus qu'à les coins de rue, à chaque instant, conditionnement de la route. Tout à fait autre chose, mais mon corps me conditionne. Si je suis très fatigué, quand je vieillis, mon conditionnement, je le sens d'autant plus. Il suffit d'attraper le palu pour s'apercevoir qu'on ne... le palu ne m'arrête. Il me conditionne. Et j'en peux rien. Oui, je vais vite voir le médecin fait ce qu'il peut. Mais il ne faut pas immédiatement faire que ce conditionnement corporel disparaisse. Parce qu'il est fondamental. Il est substantiel. Il m'accompagne tout le temps. Je voudrais bien de temps en temps qu'il ne m'accompagne pas. Vous comprenez ? Je laisserai mon corps. Mon corps dans ma chambre, avec un bon verrou. Puis mon âme irait se voyager à droite à gauche. Merveilleuse. Hein. Puis quand je reviendrai, je prendrai mon costume, mon corps. C'est pas, costume des grands jours, je peux pas. On peut rêver de ça. On peut rêver. Platon a rêvé de ça. Pour Platon, le corps était un conditionnement comme exactement comme une veste qu'on met. Que l'âme était faite pour planer, pour contempler. Non. Il y a une unité substantielle entre les deux. Et c'est pour ça que ma personne humaine implique cette autonomie fondamentale et ce conditionnement substantiel. Alors, dans la perspective qu'on avait vue de Charles Audier, vous comprenez, le corps est une aliénation. Il me conditionne, il me limite. Je suis tant que je n'ai pas pris conscience que mon corps faisait partie de mon être et de ma personne. Alors à ce moment-là, je sais que mon autonomie est limitée et que mon corps n'est pas pour moi source d'aliénation. Je ne peux pas dire que mon corps m'aliène, mais il y a une tentation. Ce qui explique comment certains refusent leur corps, refusent et ne veulent pas manger, refusent aliénation, parce qu'ils veulent un esprit plus libre. Et ce n'est pas du tout la manière de supprimer les limites. Mon corps me conditionne, il me limite, c'est sûr, mais je suis capable de comprendre ces limites et je les assume en les comprenant. Bon. Si vous avez une petite voiture qui ne peut pas dépasser le 90, hein, mais vous l'assumez, vous partez un peu plus tôt. Tandis que si elle peut aller beaucoup plus vite, vous partez plus tard. C'est ça, c'est la prudence, on l'assume. On assume notre conditionnement humain. On l'assume en sachant qu'on doit dormir tant de temps pour pouvoir être suffisamment reposé. Et si on ne peut pas, à certains moments, on l'accepte. Mais on essaie de rattraper ça après. Vous voyez, ce conditionnement substantiel qui est le corps, qui est un conditionnement et qui fait partie de ma personne. Je n'ai pas le droit de dire que mon corps ne fait pas partie de ma personne. On doit l'assumer. L'assumer, c'est pas le supprimer. Hein. C'est au contraire savoir exactement ce qu'il est. Et à ce moment-là, le corps me conditionne, je le sais. Mais il n'est pas pour moi source d'aliénation. La source source d'aliénation, c'est ce qui vient de l'extérieur. Alors j'en prends l'exemple de l'avion. Cet énorme monsieur qui est à côté de moi. Et il m'aliène un peu. Parce que j'ai quand même le droit à voir mon petit siège. Et ça déborde. Donc il m'aliène. Vous voyez la différence entre le fait d'être limité et d'accepter cette limitation et d'accepter ce conditionnement. Quand on accepte un conditionnement, on n'est pas de mauvaise humeur. On sait que c'est comme ça. J'aimerais avoir un nez plus grand. Ça peut arriver de temps en temps. Ou des yeux autres. Ben oui. Je suis conditionné. Je suis conditionné de cette manière-là. Mon corps me conditionne. Il me conditionne, mais je peux l'accepter. Et en l'acceptant, je l'assume. Et je l'assume en l'acceptant. Alors à ce moment-là, ce n'est plus une aliénation qui serait quelque chose qui viendrait diminuer. Ça limite mon autonomie, c'est sûr. Ça limite. Mais mon autonomie peut toujours dépasser le conditionnement. Ah, c'est ça qui est très très grand. Ça, on va voir progressivement comment. Parce que c'est important donc de souligner la source de mon autonomie, mon âme. Il y a une autonomie en moi, au niveau de l'être. Et au niveau de l'être, il y a un conditionnement. Et ma personne unit les deux. Je suis donc là, en présence, voyez, j'explique ce que Charles Audier simplement constaté. L'autonomie, j'avais ajouté l'aliénation. Et je comprends maintenant d'où vient cette aliénation. C'est quand je n'accepte pas que mon corps soit mon conditionnement substantiel et que mon corps fasse partie essentielle de mon être, de ma personne. Vous voyez là l'erreur de Maritain. Mon corps, c'est l'individu. Et mon âme, c'est la personne, c'est très vrai, mais c'est un. Et la personne humaine implique les deux. Mon corps n'est pas absent de ma présence aux autres. Il est, au contraire, il fait partie. Il permet la visibilité. Parce que mon âme reste invisible, mais mon âme rayonne. Elle peut rayonner. Et dans la mesure où elle rayonne, elle est victorieuse du conditionnement. Et dans la mesure où elle rayonne sur le corps, l'assumant pleinement, elle lui permet de faire que le corps devienne, voyez, comme l'expression de l'âme. Faut pas aller trop loin, parce qu'il y a l'atavisme. Vous aviez un vieil oncle, arrière-arrière-oncle, qui était un brigand. On en a tous. Un arrière-oncle qui est un brigand. Donc on a des gènes de brigands. Et même si on est un saint, ça ne change rien du tout. Parce que c'était Léonard de Vinci qui disait que à 45 ans, on avait le visage de son âme. Ça, c'est l'artiste qui dit ça. Il disait ça quand il cherchait quelqu'un pour représenter Jésus à scène. Alors en artiste, je vois très bien comment un artiste dit ça. On idéalise. Parce qu'en réalité, c'est vrai que le corps manifeste l'âme. Mais attention, c'est pas l'âme qui a créé mon corps. C'est pas mon âme qui a créé mon corps. Non, non. Mon corps, il dépend de tout un grand atavisme. C'est bien dans les ressemblances, c'est comme ça. Quand on regarde les ressemblances, on voit, tiens. Et puis quand on sait qu'il y a un brigand dans la famille, on le cache. On n'en parle pas. Ou qu'il y a un fou. famille. On n'en parle pas. Faut surtout pas en parler. Et on a raison de ne pas en parler du reste. Faut pas souligner ce conditionnement malheureux dont on ne peut rien du tout. On n'en peut rien d'avoir un arrière-oncle qui était brillant. Mais il y a des choses comme ça qui sont très très mystérieuses et qui sont dures à porter quelquefois. Très dures à porter. Je vois quelqu'un qui avait été confié à la DAS et qui avait vécu très difficilement. Il arrivait à 20 ans, voulait à tout prix connaître ses parents. C'est très curieux, tu vois, cette espèce de soif. C'est pas curieux, c'est normal, c'est le conditionnement humain qu'on veut connaître. Et puis, en découvrant progressivement que le père et la mère en prison, je vous affirme, quand il m'a dit ça, je voyais tout ce que ça représentait pour lui. Alors c'est à ce moment-là qu'il s'agit de plaider l'autonomie. Vous voyez, de voir que ce conditionnement peut être terrible, mais il n'est pas adéquat à notre personne. Notre personne dépasse ce conditionnement. Il va bien plus loin. Il y a en nous cette autonomie qui nous permet de dépasser ce conditionnement. Ça, c'est capital de comprendre ça. Parce qu'autrement, vous devenez forcément dépendant et ça joue. Puis s'il y a la moindre petite chose qui ne va pas, tout de suite, ça reste gravé. Alors vous voyez, les deux extrêmes de notre personne humaine qui font radicalement la personne. Ce n'est pas tout, hein. C'est les deux dimensions extrêmes. Et c'est pour ça que je les donne en même temps, parce qu'elles luttent l'une contre l'autre. Ce qui montre que être une personne humaine va impliquer tout le temps une lutte. La vie humaine se réalise dans une lutte constante de conquérir sa personne, sa personnalité, comme on dit. Et je dis personne, c'est concret. Acquérir ça. Voir qu'il y a un donné, oui, il y a un donné que je peux modifier, mais que je ne peux pas totalement modifier. Il y a un donné, le conditionnement du corps. Ça, j'en peux rien. De mon avis, je n'en peux rien. Et la date où je suis né non plus. Et donc, le soleil et les astres, je n'en peux rien. Mon conditionnement. Il est donné. Mon âme, je ne l'ai pas choisie. Elle est dans mon corps. Elle habite mon corps. Je le sais, c'est mon âme. Alors, je pourrai voir ensuite, on verra demain, comment on peut découvrir que l'âme vient de Dieu, créée par Dieu, qu'elle est bonne, qu'elle est radicalement bonne. Tandis que pour Platon, l'âme n'était pas toujours bonne. Il y a dans l'autonomie de la substance de l'âme. La substance est toujours bonne. C'est quelque chose de radical dans l'ordre de l'être. Et l'être est bon. Et donc il y a des ressources très profondes qu'il ne faut jamais oublier. Vous voyez, que la psychanalyste et que les psychanalystes de temps en temps oublient, que Freud oublie. Il y a des ressources de renouveau, parce qu'il y a une source d'autonomie en moi. Et une source, vous voyez, qui est donnée, c'est vrai, c'est un donné. Je ne peux pas dire j'aimerais mieux avoir une autre âme que celle que j'ai. J'ai rencontré quelqu'un qui avait une âme qui paraissait tellement extraordinaire. Et moi, je suis un peu dans la série. Pas très drôle. Donc, j'aimerais changer. Impossible. Ça, c'est les rêves. Vous voyez, c'est les rêves. Les rêves ne font pas partie de ma... Ça fait partie de ma personne, oui, mais ce n'est pas ça qui... qui constitue ma personnalité. On verra les rêves. Parce que les rêves, c'est un surmoi. C'est quelque chose qui m'empêche d'être parfaitement moi-même. Et d'avoir honte de moi. Si je découvre cette autonomie, je n'ai jamais honte de moi. Parce que j'ai une âme qui me donne une autonomie radicale, qui fait que je suis, que j'ai une dignité personnelle, cette dignité personnelle de l'âme spirituelle, qui me donne une autonomie radicale. Elle est limitée et elle a en même temps en elle quelque chose d'illimité. Ça, on le verra par le point de vue de l'âme spirituelle. Oui. Donc, on voit tout de suite première dimension et dernière dimension. Je mets la sixième. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a cinq avant, toi. Mais vous pourriez la mettre, la seconde. Comme ça, vous serez moins gêné. Je ne la mets pas seconde parce que en réalité, elle va conditionner tout le reste de ma personne. Et le conditionnement, ce n'est pas ce qui détermine. C'est quelque chose de second. Et c'est toujours quelque chose de second. Donc, ce n'est pas ça qui me fait comprendre ma personne. Oui, ça me fait comprendre que, oui, il y a une complexité en moi. Une très grande complexité. Et la personne humaine demande l'unité. Quand je reste dans la trop grande complexité, la diaspora à droite et à gauche, il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça que j'aime mieux mettre ça en 6, pour montrer que c'est l'aspect dernier du corps. Après, ce sera ce soir, on verra troisième dimension ou seconde dimension. Ce sera essayer de comprendre comment l'intelligence humaine est faite pour rechercher la vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu.